Chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous a laissé lors de l'épisode précédent à l'usine.
Oui.
Vous ne vous faites pas d'ailleurs là-bas que des amis. On vous regarde un peu comme celui qui vient faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le stage ouvrier, finalement.
Oui.
Mais votre tante n'est pas du tout de cet avis-là et pense un peu comme les ouvriers de l'usine que vous n'êtes pas fait pour faire ça, et elle exige de vous donc que vous passiez votre baccalauréat. Vous vous habituez à la paix, puisque paix il y a maintenant, et bah, vous retrouvez, vous nous le disiez également lors des précédents épisodes, vos amis Izou, Eddie, Harry, et même avec eux vous vous lancez dans une aventure éditoriale, la publication d'une revue où vous annoncez la révolution de la lumiéropeinture. Alors là, très honnêtement, votre lumière s'impose.
Oui, donc, comme j'ai raconté dans ce livre, nous étions un groupe de 4 amis qui lisions ensemble, qui parlions ensemble, qui vivons d'une certaine manière ensemble pendant ces années de guerre. Et quand la guerre est finie, nous décidons de publier une revue. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on l'avait décidé et qui l'a décidé. Je pense que c'était une sorte d'envie de s'exprimer, de dire que tout ce qu'on a fait pendant la guerre avait un sens. Et alors, dans cette revue, il n'y en a pas que la lumiéropeinture. Il y a le premier article d'Isidore Izou sur ce qu'il appelle le verbisme et qui va devenir en France le lettrisme. Mais la lumiéropeinture, et moi j'avais écrit un article sur la lumiéropeinture. L'idée de la lumiéropeinture est assez simple, et d'ailleurs elle a été réalisée, je dirais, par la suite. C'est de substituer aux couleurs, aux couleurs chimiques sur le tableau, des couleurs, des lumières, de projections de champs électromagnétiques qui donneraient des effets lumineux sur une surface, ce qui permettrait à la fois d'avoir un tableau, puisqu'on fait un premier jeu de couleurs sur le champ, sur une surface. Et en même temps, plusieurs tableaux, puisque la perception de ces couleurs change, à la fois avec d'autres lumières, avec l'ambiance lumineuse, mais aussi avec le jour. Et ça, c'était une idée qui m'est venue un peu, m'est venue inspirée de la Kabbale, si on peut dire, parce que dans la Kabbale, la lumière est quelque chose de très important. Et j'ai pensé que en fait, à la place de la matière, puisque quand même la couleur est une matière, on pourrait faire de la peinture uniquement avec de la lumière.
Est-ce que vous avez été déçu quand vous avez vu quelques années plus tard la réalisation concrète ?
Non, j'étais content parce que je me suis rappelé d'abord de cet article, et ensuite j'étais content parce que je me suis dit, après tout, c'était pas une idée tellement bête.
Alors c'est vrai qu'on a parlé de votre baccalauréat, on y est peut-être passé un peu vite, parce que c'était quand même pas évident à l'époque. On connaît le contexte, vos études qui sont un peu hachées, vous vous faites renvoyer du lycée, vous revenez. Donc se remettre comme ça dans un cycle d'études et passer son baccalauréat, c'est quand même pas une mince affaire, et vous y arrivez avec brio.
Oui, ce n'est pas une mince affaire pour les raisons que vous dites, mais pour une autre raison, c'est que la plupart des gens dans ma famille, et même mes amis, n'allaient pas à l'école. Ne sont pas présentés au baccalauréat, si on peut dire. Et donc, ça représentait une sorte de rupture avec mon milieu. Et en fait, si vous voulez, pour être tout à fait franc, j'étais bon en maths, je connaissais bien la littérature française, j'ai eu des très bonnes notes, puisque je suis sorti le premier au baccalauréat scientifique. Mais en fait, je crois aussi que j'ai eu le baccalauréat assez facilement parce que c'était le premier baccalauréat après-guerre. J'étais déjà assez vieux pour un élève de lycée. Et je crois que toutes ces choses ont fait que j'ai réussi, comme vous dites, brillamment le baccalauréat. Mais aussi, j'ai été aidé par des professeurs qui avaient confiance en moi. Mais j'ai travaillé dur pour le passer.
Et là, l'antisémitisme, qu'est-ce qu'il devient ?
Vous savez, vous posez la question de l'antisémitisme ici ou là. Il était partout. Mais si vous voulez, le baccalauréat, lui, s'est passé dans le lycée Cultura. C'est-à-dire, c'était pas un baccalauréat général. Chaque lycée, où, je me souviens plus quelle était la loi, mais c'était quand même dans ce lycée juif. Parce que pendant la guerre, comme je vous ai dit, en Roumanie, il y avait ce lycée assez curieux et même des études d'université.
Alors, vous vous inscrivez justement à la faculté.
Oui.
Vous ne serez pas, on peut le dire, un étudiant très assidu.
Non.
Déjà, vous ne savez pas franchement ce que vous voulez faire.
Donc, non,
déjà
je ne savais pas.
Il y a une sorte d'hésitation sur le choix du cursus universitaire.
Mais vous savez, à ce moment-là, l'université, ce n'était pas un événement, ce n'était pas un cursus. C'était une exception. Hein. Et moi, je ne savais pas ce que c'était l'université pour moi. N'oubliez pas que je venais d'un milieu qui est devenu modeste pendant la guerre, si on peut dire, et qui était éloigné du monde académique ou du monde bourgeois, d'une certaine manière. J'habitais le quartier juif, etc. Et donc, aller dans l'université, ça m'intimidait. Je pense que ça a été un facteur important. Moi, parmi ces étudiants qui m'étaient tous étrangers... Et puis, en fait, je n'avais pas de vue de carrière. En fait, je pense toute ma vie... Je n'ai jamais pensé à la carrière. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais des passions où j'étais attiré par la vie immédiate. Et c'est vrai aujourd'hui aussi. Mais je n'ai jamais pensé ma vie à long terme.
Qu'est-ce que vous choisissez ?
À l'université, je m'inscris d'abord en sociologie. Mais j'ai trouvé ça très ennuyeux. Et donc, j'ai quitté. Et à ce moment-là, j'ai été attiré à la fois par mes amis et à la fois par mes activités politiques ou mes activités, disons, que j'ai toujours préférées, c'est de m'enfermer chez moi et de lire ou de penser.
Et quel est à ce moment-là le regard de votre tante Anna ?
Mais elle aimait ça. Pour elle, c'était relativement important, je ne sais pas pourquoi, que quelqu'un dans la famille devienne intellectuel. Alors peut-être c'est un problème de tradition, peut-être qu'elle voyait en moi, je ne sais pas, la figure de son père ou de son grand-père, mais c'était, pour elle c'était important.
Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais ça me revient parce que je repense aux mots que vous venez de nous dire en disant « j'étais très bon en français, je possédais bien la littérature française ». C'est vrai que pendant toute la période de la guerre, vous lisez beaucoup, vous lisez des textes en français. Bien sûr, vous ne les pratiquez pas. Et je voudrais qu'on reparle justement de votre première pratique du français. C'est avec votre père et ça sert à négocier.
Oui, c'était pendant la guerre. Et les Italiens se battaient, il y avait une division italienne qui se battait du côté des Allemands, mais pendant l'hiver, ils tombaient comme des mouches à cause du froid. Et donc, ils ont envoyé une mission pour acheter des peaux de mouton à Bucarest, et mon père travaillait pour un broyard, ce qu'il a fait un peu toute sa vie. Et donc, il devait négocier avec cette mission italienne. Lui, les Italiens ne parlaient pas le roumain, lui ne parlait pas l'italien. Et comme il savait que je lisais le français, il me demande un jour de venir de lui servir de ce qu'on dit, de dolmetscher, de traducteur, d'interprète. Et alors, c'était la première fois où j'ai parlé le français. Et ça m'avait étonné parce que les mots sortaient de ma bouche. Vous savez, je n'avais jamais parlé jusque-là. Les mots sortaient de ma bouche et tous ces mots que j'ai vus cueillis dans les livres, ils étaient là et ils communiquaient quelque chose. Et les gens réagissaient. Et donc, c'était la première fois où je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas, je peux parler le français. Mais après tout, c'est vrai aussi avec l'hébreu. Je n'ai jamais parlé pendant mon enfance, enfin, parlé vraiment. Et quand je suis allé en Israël la première fois, j'ai quand même parlé l'hébreu.
Nous fermons la parenthèse de vos premiers mots en français empruntés au vocabulaire de Flaubert, de Zola et autres pour le négoce de peau de mouton. Une pause musicale et ensuite un événement qui va marquer cette période. Votre mère est à Bucarest.
Oui.
Du sollst nicht sorgen, als du gehst im letzten Weg, wenn Himmeln bleien, verstellen bläue Teig, weil kommen wird noch unser Eus gebänkter schon. Es fährt abbeugt in unser Tritt, wir sind da, weil kommen wird noch unser Eus gebänkter schon. Es fährt abbeugt in unser Tritt, wir sind da. Es wird die Morgensonne beleuchten unser Heind, die schwarzen Nächten wird verschwinden mit dem Feind, und neu versäumen wird du Sinn für den Kajor, via Parol soll dann du Slied von Dorf zu Dorf, und ob versäumen wird du Sinn für den Kajor, via Parol soll dann du Slied von Dorf zu Dorf. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht ein Lied, find's immer Feugeläufen frei. Nur so der Volk zwischen Fallen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Nur so der Volk zwischen Fallen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Palmenland bis Rand vom weißen Schleier. Wir kommen ein mit unser Fein, mit unser Wein. Und wie gefallen sie das Spritz in unser Blut, sprotzen wir dort unser Gewure, unser Mut. Und wie gefallen sie das Spritz in unser Blut, spritzen wir dort unser Gewure, unser Mut. Fahr so keinmal, als du gehst im letzten Weg. Wenn Himmeln bleien, verstellen bläue Teig, weil kommen wird noch unser Eus gebänkter schon. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sind da, weil kommen wird noch unser Eus gebänkter schon. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sind da.
Vous êtes donc à la faculté, vous n'êtes pas un étudiant très 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 assidu, d'autant qu'un événement marquant va survenir cette année-là. Votre mère est à Bucarest, vous ne l'avez pas vue quasiment depuis 12 ans. Alors comment ça se passe ?
Ça se passe bien et mal. Ça se passe d'abord. Ça a été son absence. Pendant 12 ans, elle n'a jamais donné signe de vie. Et moi, je ne savais même pas où elle se trouvait. Et puis un jour, elle apparaît à Bucarest, puisque pendant la guerre, je crois qu'elle est restée à la Galate, et puis elle a déménagé à Bucarest après la guerre, donc immédiatement, dans les années 45. Et moi, je me serais attendu à une sorte d'explosion, je ne sais pas quoi, de sentiments, de larmes, de tout ce que vous voulez. Et puis je rencontre une jeune femme, je ne sais pas comment il faut la qualifier, assez distante au début, qui me pose des questions qu'on pourrait poser à n'importe qui. Et donc, ça a été une sorte de... Notre première rencontre a été une déception de ce point de vue-là. Et puis, comme je voulais savoir, comme je voulais comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre eux, pourquoi elle ne m'a pas donné signe de vie, quelle a été la raison de son divorce avec mon père, enfin, toutes ces questions que je me suis posées pendant des années. Et la question principale que je me suis posée pendant des années, à savoir pourquoi elle ne me donne pas signe de vie. Et finalement, elle a été très réticente. Et petit à petit, elle a commencé à me raconter un peu sa vie, les raisons pour lesquelles elle a divorcé de mon père, parce qu'il n'était pas fidèle, parce que sa famille aussi s'est opposée à ce mariage, la famille de mon père, mais peut-être aussi sa famille à elle. Et donc, je pensais que, l'ayant revue, on pourrait reprendre une sorte de rapport de fils à mère ou de mère à fils. Je ne sais pas quelle était la bonne direction. Mais cela ne s'est pas fait, parce qu'elle était très, très prise dans sa famille, par ses sœurs, par son frère. C'était une famille très nombreuse. Et cette hostilité qui avait, d'ailleurs ces familles qui ont été dispersées, qui n'avaient, mais ça n'empêche pas le fait que dans leur tête, on était deux familles, deux tribus hostiles. Et donc, elle ne pouvait pas reprendre, si vous voulez, des relations avec moi.
Parce qu'elle a essayé quand même, à un moment donné, vous allez justement dans la famille de votre mère. Et ça se passe très très mal, notamment avec un de vos oncles.
Avec mon oncle, le seul, parce qu'ils étaient six filles et un garçon. Et donc, lui, il ne voulait pas. Lui, il était le gardien à la fois de ses sœurs, le gardien de leur vie, de leur vertu, de leur histoire, et en même temps le gardien de la famille. Et pour lui, j'étais le fils de mon père, donc le fils de l'ennemi. Et donc ces relations affectueuses qui sont établies tant bien que mal n'ont pas résisté à cette opposition de la famille. Et donc je l'ai vue un peu par la suite, de temps en temps je la voyais, j'ai fait la connaissance de ma sœur.
Sylvie. Ça se passe pas très bien non plus.
Hein. Ça se passe pas très bien non plus. Et en fait, une fois partie, je n'ai plus de nouvelles d'elle. Et ma sœur, comme ma mère, sont parties en Israël dans les années 60. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle non plus. Elle ne m'a jamais écrit. Je lui ai écrit une fois. Et même quand je suis allé en 78, quand j'ai commencé ces notes, ces chroniques, j'ai essayé de revoir ma sœur. Ça ne s'est jamais fait, ça n'est jamais arrangé. Je sais pas. Et donc, voilà, c'est une des caractéristiques de ma vie, cette absence de la mère.
Et en fait, un peu comme à l'image de sa famille, vous représentiez l'homme, c'est-à-dire en fait votre père. Souvent, il y a eu comme ça ce calcage entre vous et votre père qui vous a finalement nui, fait souffrir.
Oui. Et c'est pour ça que je disais dès le début de ces chroniques, mon enfance a été malheureuse, mais disons, ma vie ne s'est pas arrangée du point de vue de mes rapports avec ma mère, ni avec mon père d'ailleurs, même si je l'ai vu plus, même si j'ai su rester en contact avec lui. La seule personne de ma famille avec qui j'ai eu une sorte de lien profond, c'était ma tante.
Et c'est assez paradoxal, mais on aura l'occasion d'y revenir, parce que même avec votre tante finalement, avec qui vous avez vécu donc de très nombreuses années, des années difficiles, des années décisives, douloureuses, finalement à un moment donné aussi vous n'aurez plus de ces nouvelles, c'est-à-dire que vous allez vous écrire mais vous ne vous reverrez plus jamais.
Oui, ça c'est. Je pense que lorsque le lien est rompu avec sa mère, le lien avec la famille est rompu aussi quelque part de manière radical.
Dans le prochain épisode, nous parlerons de la Stalinomania.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.